Si nommer, c'est faire exister, le récit de la création dans la Genèse illustre à merveille cette pensée. Le jour et la nuit, le ciel et la terre, Dieu les nomme à l'instant même où il les crée. Puis c'est à l'homme qu'il confie la tâche de nommer chaque partie de cette création. Dans la Genèse, on nous raconte aussi le parcours de ces grands personnages dont Dieu modifie le nom. Si Abraham devient Abraham, si Sarai devient Sarah, ou que Jacob devient Israël, c'est pour signifier la mission qui leur est confiée et à travers laquelle Dieu fait toute chose nouvelle en eux. Le seul dont le nom reste mystérieux, c'est Dieu lui-même, lui qui n'a pas besoin d'être nommé pour exister. Alors pour se faire proche de nous, il s'incarne, devient l'un d'entre nous et se nomme Jésus. Jésus, celui qui appelle par son nom chacun de ceux dont il croise la route. Dans ce podcast, nous allons nous attacher à comprendre pourquoi les noms sont si importants dans l'histoire de l'Alliance et ce qu'ils nous révèlent d'un Dieu créateur qui nous confie à notre tour la responsabilité de nommer le monde qui nous est confié. Je m'appelle Véronique Alzieux, je suis journaliste et vous écoutez « Nommer dans la Bible, un acte créateur ». Sophie Ramon est sœur de l'Assomption. Elle enseigne l'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris, où elle est responsable de l'Institut des sciences bibliques. C'est elle qui va nous accompagner dans ses réflexions. Premier épisode, nommé pour sortir du tohu-bohu.
Dans la Bible, le nom joue un rôle très, très important. Le nom dit quelque chose de l'identité d'une personne. Il dit quelque chose de ce qu'il va advenir de cette personne, de sa destinée. Alors, ça peut être sérieux, ça peut parfois être aussi d'ailleurs assez amusant. Vous avez des personnages qui ont des noms qu'on appelle des noms programmatiques, c'est-à-dire des noms qui annoncent par avance
ce qu'ils vont devenir.
Ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils sont, ce qu'ils vont faire. Voilà, il y a des jeux aussi avec les noms dans les textes, dans les récits surtout, dans les récits bibliques. Et alors, évidemment, il est question aussi des noms de Dieu, de la manière de nommer Dieu. Et ça, on va en parler, c'est très important.
On va s'attacher dans ce premier épisode à parler du récit de la création, des textes de la Genèse, parce que ce qui est dit de la manière dont les choses sont nommées, dont cette création est nommée, est tout à fait significative. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que quand Dieu crée, il nomme.
Oui, c'est vrai que quand Dieu crée, il crée par sa parole. Et donc ça, c'est la première chose. Et il crée en séparant. On pourrait dire qu'il fait de l'ordre. Il fait de l'ordre en séparant ce qui ne doit pas être mélangé, sinon on est dans le chaos. Alors si on lit les textes, hein, ça apparaît assez facilement. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc il crée. Et ce qu'il énonce, ce qu'il dit, ce à quoi il donne un nom, hein, la lumière, est créé. Puis, en fait, le texte nous dit « sépare la lumière de la ténèbre ». Donc, on voit bien qu'il y a une distinction qui est faite. Et ce qui est jour s'appelle jour, ce qui est nuit s'appelle nuit, etc. Ça, c'est la première chose, une création par la parole. Ce qui nous dit, une première chose, c'est que nommer, dans une certaine mesure, c'est créer. On le voit apparaître aussi dans un psaume, qui est le psaume 146, au verset 4, où il est dit « Dieu compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom ». Alors, on reviendra peut-être sur cet appel par le nom, mais on voit que nommer, appeler, c'est créer, c'est aussi connaître, avoir une connaissance personnelle, on pourrait dire, ou individuelle, y compris donc des créatures du cosmos.
Dieu crée le jour et la nuit, le ciel et la terre. Vous dites qu'il crée en distinguant, en sortant du tohu-bohu. Mais le reste des noms qui sont donnés à cette création, ça n'est pas lui. Dieu ne nomme pas tous les animaux, ne nomme pas toutes les plantes, tous les arbres. Il confie à l'homme le soin de nommer.
Alors voilà, il va confier à l'homme, c'est-à-dire en fait à l'humain, parce que le terme ne dit pas le masculin hein, dans le texte biblique. Le terme qu'on traduit après par Adam, hein, Adam, en fait, c'est un terme qui dit celui qui est issu de la Adama, hein, de la terre. Alors quelquefois, vous avez trouvé des traductions. Voilà, le terreux, bon, c'est pas forcément pour nous très significatif. Mais disons que voilà, c'est celui qui est issu de la terre. Ça veut dire que c'est un nom qui n'est ni masculin ni féminin, en fait. Hein, ça ne nomme ni le masculin ni le féminin. Et donc ce terreux, cet humain, hein, qui est sorti de la terre, c'est lui, en effet, qui va devoir nommer les choses créées. Et c'est dire que Dieu donne à l'humain cette capacité aussi de mettre de l'ordre, cette capacité d'avoir un certain pouvoir. Parce que, et ça c'est une autre dimension, nommer les choses, connaître les choses, c'est avoir un pouvoir. Et c'est bien de cela dont il est question dans ces textes bibliques, hein, où Dieu donne à l'humain de continuer en quelque sorte la tâche qui est la sienne dans la création, de continuer à faire proliférer, à faire vivre, à faire fructifier cette création qu'il met entre ses mains.
Et notamment en la nommant, en lui donnant un nom, et en lui donnant des noms.
Notamment en lui donnant des noms, hein, ce qui est raconté dans le chapitre de la Genèse. C'est la mission qui est donnée par Dieu à l'humain pour lui permettre donc de sortir du tohu-bohu, hein, de sortir du chaos. Et le texte nous dit, donc je suis au chapitre 2, hein, au verset 19, « Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs, tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. » C'est extraordinaire, à la fois cette capacité, mais aussi ce pouvoir qui est donné à l'humain.
Et puis il faut se représenter la scène, c'est-à-dire que Dieu amène chaque créature à l'homme.
Voilà, et lui dit, bon ça, alors comme ça, comment on va l'appeler ça, hein? Enfin, bon, le texte ne dit pas ça, c'est moi qui invente un peu là, mais quand même le texte poursuit en disant, tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. Alors voilà, il va désigner par leur nom le bétail, les oiseaux, les bêtes des champs, et puis ça va avoir une vertu, si j'ose dire, c'est que là l'homme qui est seul va se rendre compte que finalement il n'a pas de vis-à-vis. Il n'a pas une aide qui soit pour lui un vis-à-vis.
Et ça lui manque.
Et ça va lui manquer. Et c'est de là que va procéder la création, dans le chapitre 2 de la Genèse, la création de la femme, en tout cas la création de l'homme et de la femme comme être distincts, homme et femme. Et l'homme va s'écrier, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise, alors on l'appellera femme. En fait, il va l'appeler Ève, c'est-à-dire Ève, c'est la vivante, c'est celle par qui passe la vie. L'homme appela sa femme du nom de Ève, c'est-à-dire la vivante, hein, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant.
C'est quand même un pouvoir considérable que Dieu accorde à l'homme, enfin à l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Parce que la création, d'une certaine manière, une fois qu'elle est sortie des mains de Dieu, elle prend son autonomie, si je peux dire les choses comme ça. Et donc, il revient à l'humain d'être on pourrait dire, le représentant de Dieu sur la terre, encore une fois, pour la faire fructifier, pour la faire s'épanouir, pour la faire abonder. Et la nomination a cette vertu de donner à la fois une connaissance et oui, un certain pouvoir aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre aussi ce que disent les noms. L'homme, il a le pouvoir donc de soumettre la création, hein, de la faire fructifier. En même temps, il est le terreux, il est celui qui est issu de la Adama. Donc il ne faut quand même pas qu'il se prenne trop au sérieux. Après, on a fait de Adam et Ève des prénoms, mais ce ne sont pas des prénoms au point de départ. Et voyez que la femme, elle reçoit ce nom qui est quand même extraordinaire d'être la vivante, ou celle par qui passe la vie. Ça dit aussi quelque chose quand même de cette vocation humaine. J'allais dire à la fois entre misère et grandeur, bon, on est issu de la terre, il ne faut pas trop se prendre au sérieux tout de même, mais avec cette vocation, cette vocation, je pense qu'on peut presque aller jusque-là, de dire que on est ce par qui doit passer la vie.
Mais alors voilà. Si Adam et Ève ne sont pas des prénoms, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des noms qui sont quasiment des étiologies, c'est-à-dire des noms qui disent ce qu'est l'humain. C'est-à-dire, Monsieur Adam et Ève, nos premiers parents, non, merci bien. Enfin, c'est trop simpliste, même si après, voilà, dans les traductions, ça devient quasiment des prénoms. Mais ce sont des nominations qui disent ce que doit être l'humain, ce que l'humain est appelé à être.
C'est pour ça que vous parliez de vocation.
Oui, voilà. C'est pour ça que je parlais de vocation, pour dire ce que nous sommes appelés à être. C'est un peu grandeur et misère de l'humain. C'est, ou encore, si vous voulez, ce qui est exprimé dans le psaume 8, quand il est dit que l'homme est celui dont Dieu prend souci, qui a reçu tout pouvoir, et en même temps, il a une certaine fragilité. Il est issu de la Adama, hein, donc de la terre.
Mais il se voit quand même, encore une fois, confier une responsabilité considérable qui est de nommer et de faire fructifier la création qui lui est confiée, avec le risque que ça comporte.
Avec le risque que ça comporte, c'est le risque qu'il arrive tout de suite dans le récit, parce que si on tourne les pages de la Genèse, on arrive tout de suite à l'histoire de Caïn et Abel. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que ce sont donc les deux premiers fils engendrés, et ils ont des noms qui sont tout à fait significatifs, parce que Abel, en fait, ça vient d'une racine hébraïque, Abel, qui dit nuée, vapeur, c'est-à-dire ce qui est fragile, ce qui est éphémère. C'est la même racine que l'on a dans une expression du livre de Coëlette que l'on traduit souvent « vanité des vanités, tout est vanité ». Donc c'est ce qui est fragile, éphémère, ce qui passe. Donc Abel, c'est ça. Et Abel, ben, comme on le sait, il va être tué
par
son frère Caïn. Et c'est celui donc dont la vie est éphémère. Mais l'humain, c'est ça aussi. Il est qualifié par sa vulnérabilité, par sa fragilité.
Et Caïn, qu'est-ce que ça veut dire ?
Et Caïn, alors ça, on a quelque chose de très intéressant parce que c'est le récit qui nous le dit. C'est Ève, en fait, qui nomme Caïn et qui dit dans le texte « J'ai acquis », alors en hébreu ça se dit « kaniti », un homme avec Adonai. Et en fait, on a un jeu de sonorité, un jeu de mots entre Caïn et acquis, qui évidemment c'est très difficile dans la traduction en français. Mais donc il y a un jeu de mots étymologique sur ce nom de Caïn. Et vous entendez ce que dit Ève, « J'ai acquis un homme ». Un ish de Adonai, du Seigneur. Alors, on peut entendre ça positivement. Voilà un fils qui m'a été donné par Dieu. Mais on peut entendre ça aussi avec une nuance un peu plus négative. J'ai acquis, c'est ma possession.
Il est à moi.
Il est à moi. Hein? Et là, ça nous dit quelque chose du risque aussi de nommer. C'est la possession. De prendre pour soi ou de retenir pour soi.
Et c'est un risque permanent, c'est une tentation qu'a l'homme, selon vous ?
C'est une tentation parce que, en fait, nommer, savoir, ça comporte toujours un risque, qui est le risque du pouvoir, le risque de l'abus, le risque de...
De se prendre pour Dieu.
De se prendre pour Dieu, exactement. Et le risque de considérer l'autre par rapport à ce que je pense qu'il doit être pour moi, sans le laisser. En fait, c'est le problème, on pourrait dire, de ce fils, d'une certaine manière. Hein, c'est le problème de ne pas pouvoir être... un homme pour lui-même, mais d'être un homme pour sa mère.
Mais ça conduit à une question quand même très, très complexe, qui est que Dieu confie, donne la responsabilité à l'homme de gérer cette création et de la nommer, mais jusqu'à quel point ? C'est-à-dire jusqu'à quel point cette création appartient-elle à l'humain ?
Elle n'appartient pas à l'humain, justement. Et c'est ça, peut-être, que le texte aussi veut nous dire. Elle n'appartient pas, elle n'appartient qu'à Dieu, c'est lui qui a créé. Elle n'appartient pas à l'humain, elle est remise entre ses mains pour qu'il en prenne soin. Et je pense que là, le récit, de manière assez subtile, nous avertit que prendre soin, ce n'est pas posséder ni être maître. Et que c'est peut-être quelque chose dont il faut nous souvenir. Alors ça a des implications très importantes dans la crise écologique que nous traversons, dans la crise aussi humaine que nous traversons. C'est que ce à quoi nous sommes appelés, c'est prendre soin. Et non pas posséder ou non pas avoir pouvoir sur.
C'était le premier épisode du podcast nommé dans la Bible « Un acte créateur » avec Sophie Ramon, sœur de l'Assomption, qui enseigne l'Ancien Testament et qui est responsable de l'Institut des sciences bibliques à l'Institut catholique de Paris. Prochain épisode, le combat de Jacob contre quelqu'un.